France Culture, question du soir. Matteo Caranta.
Depuis le mois dernier, les principaux sites de contenu pornographique et l'État français ont engagé un bras de fer. D'un côté, la puissance publique qui souhaite mieux contrôler l'accès de ces sites aux mineurs par une vérification de l'âge des internautes. De l'autre, une majeure du porno qui dénonce des mesures liberticides et a rebloqué l'accès à ces sites internet le 15 juillet dernier après une décision en sa défaveur du Conseil d'État. Derrière cette confrontation juridique et législative, la question de la protection des enfants et des adolescents face à une exposition croissante à la pornographie est considérée comme une urgence politique. En moyenne, dit une étude parue en 2022, un enfant est exposé pour la première fois du contenu pornographique à l'âge 10 ans. Alors au-delà de cette donnée percutante que nous allons discuter, que sait-on vraiment de la consommation porno des mineurs, des jeunes, des enfants, des adolescents? Peut-on en mesurer les conséquences psychiques? S'agit-il d'une panique morale, d'une interrogation légitime ou d'un problème de santé publique? Comment repenser notre apprentissage de la sexualité quand le porno est au bout du clic? C'est le thème de l'émission de ce soir. Et avec nous pour en parler, quatre invités. Samuel Combles, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychologue de l'enfance et de l'adolescence, directeur des opérations de l'association e-enfance, entendre e comme Internet enfance, et du 30-18. Et vous aviez fait paraître un livre aux éditions Solar il y a quelques années, La sexualité de vos adolescents. Sans en parler, ce n'est pas si compliqué, point d'interrogation. À vos côtés se trouve Marie-Rose Moreau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes pédopsychiatre, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Cité, chef de service de la maison de Solène, et vous aviez fait paraître également il y a quelques années aux éditions Erol, Et si nous aimions nos ados. Là aussi, un point d'interrogation. En face de vous se trouve Yaël Anselm Mangui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue chargé d'études et de recherche à l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, l'INJEP, membre du Centre d'études et de recherche sur les liens sociaux, et vous avez participé récemment à une grande enquête sur la sexualité des jeunes qui a donné lieu à un livre, La sexualité qui vient, Jeunesse et relations intimes après MeToo. C'était publié il y a quelques mois aux éditions aux éditions de La Découverte, et vous avez fait paraître il y a quelques années Les jeunes, la sexualité et Internet, et cette fois-ci c'était bien aux éditions François Bourin avec Arthur Voitou. Et enfin, Michel Combeau, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des technologies de l'innovation et de l'intelligence artificielle à la CNIL. Merci à vous quatre d'être présents dans Questions du soir. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h.
Ça a commencé, j'étais en 5e, donc je devais avoir à peu près 12-13 ans. J'étais sur l'ordinateur familial, je vais pouvoir faire des jeux ou regarder des vidéos. Et là, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte, qui faisait de la pub pour un site pornographique. À la fois, il y avait la violence des images qui me dégoûtait, qui me repoussait un peu. Et en même temps, il y avait la curiosité. Et ça devient une habitude. Dès que je me retrouve seul à la maison, rapidement, je vais aller voir ces sites. Ça m'isole socialement, j'ai plus d'énergie, je deviens irritable. On se sent crade, on se sent dégueu, et donc en parler aux autres, c'est extrêmement difficile à avouer ça.
Ce qui est interdit aux mineurs dans la rue, dans les écoles, dans nos foyers, devrait aussi l'être dans l'espace numérique. L'exposition précoce à des contenus pornographiques violents entraîne des souffrances chez nos enfants. Là où d'autres pays ont flanché, Royaume-Uni, Australie, plusieurs États des États-Unis, nous avons tenu bon, car en France, ce ne sont pas les plateformes qui font la loi.
Le fait que un garçon sur deux, dès 10 ans, une fille sur trois, dès 10 ans aussi, puisse accéder à du contenu pornographique en cliquant sur un bouton, c'est fini.
Alors, on vient d'entendre, pour finir, après un témoignage de Régis, à l'âge de 12 ans, qui témoigne, c'était en 2024, de Louise Morel, du groupe démocrate de l'Assemblée nationale, on vient d'entendre la voix de la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, Clara Chapaz, qui dit un garçon sur deux à l'âge de 10 ans, une fille sur trois. Je parlais en introduction de l'étude commandée par la région Île-de-France en 2022, qui arrivait à un résultat similaire en disant que l'âge moyen de la première exposition est désormais de 10 ans. Michel Combeau, je le rappelle, vous êtes directeur des technologies de l'innovation et de l'intelligence artificielle à la CNIL. Quels sont les chiffres dont nous disposons? Est-ce que les chiffres de la ministre sont ceux que vous disposez, ceux qui sont publiés parmi les dernières études?
Oui, c'est clairement des chiffres qui sont réels. Hein. C'est un phénomène de société.
malheureusement. C'est aussi pour ça que l'ensemble des acteurs de l'État, de la CNIL, l'ARCOM et bien entendu le gouvernement se mobilisent depuis près de 5 ans, et la loi et les voix de la loi en 2020 à l'initiative de la sénatrice Mercier pour justement lutter contre ce phénomène rampant, important, au sein de nos jeunes, qui est l'accès finalement sans contrainte à du contenu pour adultes.
Comment est-ce? Allez, je vous en prie.
Non, c'est effectivement une vraie lutte collective pour s'assurer que nos jeunes ne puissent pas accéder librement à ces contenus.
Comment est-ce que vous lisez ces chiffres, Yael Anselmenguy?
Alors, ces chiffres, ils valent ce qu'ils valent parce qu'ils ont été faits dans des perspectives de mieux comprendre les usages numériques des jeunes notamment, mais ils posent la question malgré tout des rapports de genre, et moi dans les enquêtes sur lesquelles j'ai pu travailler, on voit quand même des très grosses différences entre les premiers usages des filles et des garçons, avec une première exposition plutôt des garçons, donc au début des années collège, qui vont avec les périodes de découverte de la puberté et de la masturbation.
Là c'est plutôt, de ce qu'on entend, c'est plutôt que les années collège, là ce qu'on entendait c'est
ouais,
plutôt
c'est 10 CMD. Ans, bah, 10 ans, nous dans les enquêtes ça commence, on va dire, les prémices à 10 ans, et puis en fait c'est surtout dans les années collège, avec la puberté, qu'on voit que les garçons vont chercher des contenus pornographiques. Tandis que les filles, c'est bien plus tardivement, au moment où elles vont être dans les premières expériences du couple, où elles vont être et elles vont aller chercher, soit avec leur partenaire du moment, soit toutes seules, des contenus pornographiques. Mais dans toutes les enquêtes sur lesquelles on a pu travailler, on voit un gros écart dans les pratiques des filles et dans les pratiques des garçons à l'adolescence.
Comment est-ce que vous recevez ces chiffres, Samuel Comblet? Je rappelle, vous êtes directeur des opérations de l'association e-enfance du 38. Alors peut-être très rapidement, qu'est-ce que vous faites au sein de ces associations? Est-ce que les patients sont viennent d'enfants ou de jeunes de plus en plus jeunes? Est-ce que vous avez noté une évolution, disons, d'un point de vue très expérimental de votre expérience?
Oui. L'association e-enfance est une association de protection de l'enfance sur Internet qui existe depuis 20 ans. On protège les mineurs vis-à-vis de tout ce que Internet peut provoquer en termes de risques, et notamment l'accès à la pornographie, mais aussi le cyberharcèlement, le harcèlement, etc. On a un service téléphonique, le 3018, qui est un numéro gratuit, anonyme, confidentiel, qui permet à la fois aux jeunes de pouvoir nous appeler en cas de danger, en cas de problème, et aussi aux parents de trouver des réponses à leurs questions, ainsi qu'aux professionnels. Alors ces chiffres, moi je les accueille sans grand étonnement, puisque c'est pas étonnant que les enfants aillent et les adolescents aillent chercher autant la pornographie, dans la mesure où la porte est grande ouverte. C'est vrai que ça fait 5 ans qu'on se bat à l'association e-enfance pour tout simplement faire respecter la loi. C'est vrai qu'on se dit que ça fait 5 ans que c'est interdit les contenus pornographiques. C'est pas vrai, ça fait des années, ça fait des dizaines d'années que les contenus pornographiques sur Internet sont interdits, mais la pornographie a toujours été interdite aux mineurs. Et ce que dit la loi est clair, c'est que quand on est un site Internet, on doit complexifier l'accès de notre site aux mineurs. Et donc on ne doit plus se contenter uniquement de permettre à l'enfant de cliquer sur une petite case en disant « oui, je suis majeur, donc j'ai accès à ce site », je dois mettre en œuvre les moyens suffisants pour contrôler l'âge des mineurs et vérifier que si je suis majeur, je suis réellement majeur. Là, aujourd'hui, je dirais que 100% des mineurs peuvent avoir accès très facilement à des contenus pornographiques, avec toute la violence que ça peut représenter, et c'est là où on a besoin de se mobiliser, c'est là où nous agissons avec l'association e-enfance et le 3018.
Alors, je poserai la même question à Marie-Rose Moreau dans quelques instants. On lit dans les articles, on entend les termes de viol psychique ou d'effraction psychique pour les plus jeunes. Est-ce que vous validez ces termes? Qu'est-ce qu'il y a derrière?
Alors, ce n'est pas des termes que j'utilise moi, viol psychique, mais en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que quand les jeunes témoignent de ce qu'ils ont vu, il y a une forme de sidération, il y a une forme parfois de traumatisme pour les plus jeunes, de pouvoir réussir à accueillir en fait ces images qui ne sont pas du tout faites pour eux, qui les mettent dans une forme de questionnement, de doute, d'interrogation et surtout d'inquiétude, parce qu'ils se rendent compte que la sexualité des adultes, dont on a du mal à parler quand on est un adulte en France en particulier, c'est en fait ça, de ça dont il s'agit, et ils ont forcément une projection dans ce que va être leur sexualité, avec toute l'inquiétude que ça peut représenter, puisque la pornographie véhicule quand même l'idée que les rapports sexuels sont des rapports bestiaux parfois, avec une forme d'expérience presque sportive que l'on doit avoir, avec une domination de l'homme sur la femme. Enfin, c'est quand même des messages qui sont envoyés à ces jeunes, qui sont quand même complexes à pouvoir décrypter si on n'a pas à côté de soi un adulte qui nous rassure et qui nous dit « attention, la sexualité des adultes n'est pas du tout ce que tu as vu sur ces images et tout ça doit s'accompagner du coup aussi d'une éducation à la sexualité pour aussi permettre de mettre à distance ces images. »
On va y venir bien évidemment. Marie-Rose Moreau, viol psychique, effraction psychique, trauma pour les plus jeunes?
Alors, viol psychique, je dirais pas, moi non plus, c'est pas un mot que j'emploie parce que malheureusement il y a tellement de viols physiques déjà que cette question, enfin je sais pas, ce mot faut pas l'adoucir, voilà. Mais par contre, effraction, oui, c'est sûr. Et après, il y a des questions d'âge. Yaël, vous l'avez dit, il y a une confrontation, une exposition des enfants et des adolescents qui ne se fait pas à la bonne dose, en fait. Déjà, la violence, de toute façon, elle dépasse toutes les doses, mais en plus, il faut justement pouvoir appréhender la question de la sexualité adulte, parce que c'est justement la question, c'est la sexualité adulte qui pose problème.
La sexualité adulte, a priori, qui est montrée dans les
sites. Qui est montrée, telle qu'elle est montrée, enfin, oui.
Une vision de la sexualité adulte.
On peut confondre, c'est-à-dire qu'effectivement, pour les petits, la pornographie qui leur arrive comme ça, et eux, ils n'ont pas l'esprit critique, ils ne sont pas préparés. Et oui, ça fait effraction, oui, ça fait du mal. Et après, quand les adolescents, moi, je pense que c'est effectivement très, très différent pour les garçons et les filles. Et que moi, je constate que les filles arrivent plus rapidement que les garçons à avoir un esprit critique par rapport à ces contenus et à s'en protéger un peu plus que les garçons. Mais cette effraction, elle existe à tous les âges. Mais au-delà de la question de l'effraction et effectivement de la confusion, donc, vous demandiez est-ce que c'est un problème de santé publique ou une question de société. Enfin, pour moi, c'est une question de société en réalité. C'est au-delà de la santé. Hein, c'est on fabrique des contenus dans un système, donc c'est pas la pornographie et l'enfant, c'est le système des adultes, de la société adulte qui fabrique cette pornographie et qui expose les enfants à ces contenus pour lesquels ils sont pas du tout préparés et qui leur fait violence. Et donc je trouve que là, bien sûr, il y a la question du contrôle. Alors on fait comme si c'était nouveau alors que c'est déjà interdit depuis très longtemps. Donc manifestement, ça marche pas très bien notre contrôle. Déjà parce que apparemment tous les pays le font pas, et puis parce que même ceux qui, comme nous, sont censés le faire, ils le font pas. Et de toute façon, le système est extrêmement violent. Mais au-delà de cette question, c'est vraiment pour moi, c'est comment les adultes envoient des projectiles aux enfants et les abrasent, leur donne une image de domination, de violence, de confusion des genres et des actes. Et effectivement, c'est la question de l'éducation.
Ça, ce sont les adultes qui envoient les projectiles.
Oui, ce sont les adultes qui envoient les projectiles.
Je rappelle, vous êtes chef de service de la maison de Solène, et puis je vous ferai réagir juste après à Yael Anslem-Mingui. Comment est-ce que les adolescents, les jeunes que vous rencontrez à la maison de Solène, reçoivent ces projectiles? Quel est le récit qu'ils en font, s'ils en font un récit?
Alors, j'allais dire que spontanément, moi, je n'entends pas beaucoup parler dans mes consultations. Les ados viennent me voir pour des tas d'autres choses, des tas d'autres souffrances. J'entends beaucoup parler, par contre, de la violence sexuelle, ça, la violence des adultes, de l'inceste, des viols. Enfin, ça, vraiment, c'est quelque chose. Là, pour le coup, c'est d'une violence terrible et ça crée vraiment des choses extrêmement graves. Donc ça, ils en parlent, bien sûr, puisque ça crée énormément de souffrance chez eux directement. Ils en parlent pas spontanément, mais si dans les groupes de parole, lorsqu'on discute avec eux collectivement de choses du monde des adultes, la question parfois se pose de la pornographie, est-ce qu'on apprend des choses avec la pornographie? Ça, c'est les filles qui posent régulièrement cette question. Elles se demandent si et d'ailleurs c'est moi ça me fait beaucoup penser, mais c'est les grandes adolescentes. Hein, ça me fait penser que vraiment la question de l'éducation est une question essentielle, parce que si justement on arrive à regarder ces contenus qui s'imposent à vous parfois d'une manière un peu différente, eh bien ça fera un peu moins de mal à ces adolescentes. Mais les garçons, ils n'ont pas d'esprit critique.
Les garçons n'ont pas d'esprit critique. Est-ce qu'on apprend avec la pornographie? Que sait-on de l'impact de la pornographie sur les mineurs? Est-ce qu'il y a des études qui ont été menées, Yael Anselm-Guingui?
Il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'études sur l'impact. Vraiment, du point de vue des sciences sociales, en tout cas, on n'a pas d'enquête sur l'impact d'avoir vu ou pas.
C'est impossible de l'étudier parce qu'il y a une difficulté méthodologique.
Parce que déjà, il y a une difficulté méthodologique à savoir qu'est-ce qu'on entend comme... Enfin, qu'est-ce qui fait partie de la catégorie pornographie? On n'est pas d'accord sur ce que font partie, qu'est-ce qu'on met derrière la pornographie. Quand on va interroger des enfants, quand on va interroger des jeunes, quand on va interroger des ados de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, de 17 ans, personne n'aura la même définition de ce que c'est la catégorie pornographique. Et c'est le premier problème. Et du coup, en fait, les enfants, typiquement, ils vont coder dans pornographie qu'est-ce qu'est le sexe interdit, le sexe sale. Mais ils vont mettre dans le sexe sale des gens qu'ils ont vus s'embrasser dans la rue, avec, ben voilà, en s'embrassant, en se roulant une pelle, explicitement, ils ont vu des gens qui faisaient du sexe dans la rue. Mais revenir de l'école en disant « hier soir, j'ai vu des gens qui faisaient du sexe dans la rue », non, c'était des gens qui s'embrassaient dans la rue. Et pareil pour les contenus filmés ou les films de Cannes qui passent aux 20h ou à 22h à la télé ou sur les plateformes de streaming. Donc il y a déjà cette première difficulté-là qui font que dans les enquêtes quantitatives, on a des difficultés pour saisir réellement l'âge à la première exposition de contenu porno, puisque... On va poser la question comme ça, avec tous les biais qu'il y a dans qu'est-ce que c'était qu'un contenu pornographique. On n'a pas le temps d'exposer un contenu pornographique dans le sens où nanana. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans les enquêtes qualitatives. On va faire des entretiens et là, on prend du temps pour comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est quelque chose qu'on a beaucoup fait avec Arthur Vuatou, par exemple, de comprendre qu'est-ce que les jeunes mettaient derrière pornographie. Et on voit là des grosses différences entre des contenus qui ont été choisis, quel que soit l'âge. On a cherché des choses sur le sexe sur Internet. Donc, on a les moyens, en fait, de pouvoir cliquer parce qu'on a choisi d'aller chercher ces choses-là. Et puis, de l'autre côté, des jeunes qui se voient exposés involontairement à des contenus. Et en fait, il y a vraiment...
Ça, c'est l'effraction et c'est l'infraction.
Alors, ça, c'est pas la sociologie qui le dira. Mais en tout cas, ce qu'on voit dans les récits des jeunes qu'on peut interroger dans les enquêtes en sociologie, c'est vraiment la différence entre avoir été exposé involontairement, comme c'était le cas des jeunes qui étaient ados ou enfants dans les années 2000, avec où tout le monde téléchargeait illégalement des contenus en ligne. Je parle sous le de la CNIL. Voilà.
Et donc, le sourire attristé de Michel Combeau.
Il y avait des torrents et 200 pop-up qui s'affichaient sur un écran d'ordinateur avec des scènes les plus glauques et les plus trash quand on voulait juste regarder un dessin animé. Et puis aujourd'hui, l'avantage d'avoir des plateformes de streaming qui permettent finalement d'évacuer toute cette exposition ou une grosse partie de l'exposition involontaire. Donc voilà. Et puis peut-être pour différencier, je pense qu'il y a un point aussi sur lequel il faut qu'on fasse attention aujourd'hui, c'est que quand on parle des mineurs, on met dans la même catégorie des enfants qui ont 4 ans, qui ont 8 ans, qui ont 12 ans, des ados qui ont 16 ans, 15 ans, 17 ans, 17 ans, 99 quoi. Et or, on n'est pas la même, on n'est pas dans les mêmes environnements. Aujourd'hui, on sait que l'âge médian à la première fois est autour de 17 ans et demi. Ça fait pas la même chose quand on a 6 ans et quand on a 17 ans.
Alors Michel Combeau, je voudrais savoir quelles sont les mesures existantes aujourd'hui qui fonctionnent pour protéger les mineurs sur les réseaux. Mais d'abord, je voudrais faire réagir Samuel Comblaise sur cette définition du mineur face à la pornographie qui, en fait, si on écoute Yael Anselm-Guingui, est un grand sac qui mélange beaucoup d'enfants dans des états, dans des attentes, dans des envies et des affects très différents les uns des autres.
Oui, c'est vrai que on n'est pas pareil quand on est un enfant et un adolescent. Et je pense que moi, quand j'entends au 38 des jeunes nous appeler, nous parler de pornographie ou les passions que je peux recevoir, c'est vrai que la question de départ, c'est quoi la sexualité en fin de compte. Et je pense que beaucoup de jeunes se tournent vers la pornographie parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les bonnes réponses aux bonnes questions qu'ils se posent. C'est normal de se poser des questions autour de la sexualité. Je dirais même que les jeunes s'en posent de plus en plus tôt, même si le premier rapport sexuel, il a plutôt tendance à être de plus en plus retardé. Apparemment, on est passé de 17 ans à 18 ans. Mais en tout cas, la préoccupation pour la sexualité me semble être extrêmement précoce. Dès l'école primaire, on se pose des questions. Et c'est assez normal, ça fait partie de la culture des enfants. On voit dans les séries Netflix, dans les programmes télévisés, on en parle dans les cours de récré. récréation, on va se montrer des films comme ça pour se provoquer les uns les autres. Et donc il est normal d'avoir ces questions en tête. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui, je sais qu'on va parler de la prévention et de l'éducation, mais c'est vrai que le problème de la pornographie, au-delà de la violence dont on a parlé tout à l'heure, c'est que c'est le seul discours en fait que les enfants peuvent avoir. Et ce qu'il faudrait, c'est inventer des contre-discours, pouvoir relativiser, pour pouvoir permettre de donner de la distance vis-à-vis des images et permettre aux enfants de se donner une idée claire de ce que c'est la sexualité. Mais pour ça, il faut que les adultes aient aussi le courage de pouvoir donner un discours aux enfants qui soit entendable pour eux.
Alors, il y a un rapport de 2018 du Collège national des gynécologues et obstétriciens français qui concluait, je cite, « Cette grande disponibilité des images pornographiques n'est pas étrangère à l'augmentation des viols par mineurs sur mineurs, celle des IVG chez les jeunes filles et celle des infections sexuellement transmissibles. » Donc, ce rapport établit un lien entre pornographie et violence sexuelle entre mineurs, ce qui me fait écho à une déclaration d'Emmanuel Macron qui disait « la pornographie a franchi les portes des établissements scolaires ». Alors lui, il parlait en termes de consommation, mais est-ce que vous faites le lien au sein de l'association e-enfance entre consommation de pornographie, accès, disons, renforcé, accéléré, massifié à la pornographie et l'augmentation, par ailleurs établie, des agressions entre mineurs?
Alors, je pense qu'il faut être prudent, ouais. Parce que c'est peut-être un rapport un peu rapide. Peut-être que de dire que ceux qui peuvent être violents sexuellement, et notamment chez les mineurs, sont certainement beaucoup consommateurs de pornographie, ça je veux bien l'entendre, mais de là à dire que la pornographie va engendrer de la violence sexuelle, et notamment entre mineurs, je pense qu'il faut être encore une fois un petit peu plus prudent. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que la pornographie, elle va engendrer des rapports garçon-fille, des rapports avec son propre corps, des rapports dans la manière dont on va considérer l'autre, ne serait-ce que par le consentement, etc., qui vont être complètement biaisés, parce que la pornographie, elle raconte une histoire qui n'est pas une histoire de la vie, c'est un certain regard sur un programme qui est fait, encore une fois, pour les adultes et qui ne devrait pas être destiné aux enfants. Moi, je suis sidéré parfois quand je parle à mes patients de pornographie et de leur sexualité, c'est de me rendre compte que quand ils me parlent de leur propre rapport sexuel, en fait, ils me décrivent un rapport sexuel. Et il n'y a pas du tout de créativité, d'imaginaire, il n'y a pas du tout de possibilité de construire leur propre sexualité avec le ou la partenaire qu'ils ont choisi. En fait, on les sent contraints en fait de suivre une espèce de chemin qui leur a été édicté par la pornographie, où il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de pause. Et ça, c'est me semble-t-il un problème assez important.
Michel Combeau, alors qu'est-ce qui existe concrètement aujourd'hui qui fonctionne au-delà du débat juridique en cours? Qu'est-ce qui a déjà été mis en place pour protéger, limiter, malgré les nouveaux usages d'Internet et du téléphone, pour protéger les enfants, maintenant on a dit les mineurs, les adolescents face à la pornographie.
Alors, ce qui est simple, hein, c'est un travail qui a été entamé depuis déjà plusieurs années, c'est ce qu'on appelle les systèmes de vérification d'âge, hein, que doivent mettre en œuvre, hein, les sites pour adultes et les sites présentant des contenus pornographiques, et ce sont des systèmes qui doivent bien entendu protéger aussi la vie privée des personnes. Il ne s'agit pas de vérifier l'âge et par ailleurs de noter en ligne tous les contenus visités par les internautes. Et donc c'est un travail qui a été fait en liaison avec l'ARCOM et le gouvernement, notamment le PRN en France, pour s'assurer que des systèmes existent, puissent être développés et qui respectent la vie privée, soit parce qu'effectivement on va utiliser des systèmes fiables de reconnaissance faciale et donc d'estimation fiable de l'âge, soit avec des tiers certifiés, hein, contrôler l'identité et s'assurer que lorsque cette preuve d'âge sera donnée à l'adulte, quand l'adulte sera effectivement en ligne, le site ne pourra pas récupérer l'identité. Donc ça, ces systèmes existent, hein, sont d'ailleurs commercialisés et en tout cas maintenant les sites pour adultes n'ont plus aucune excuse, hein, n'ont plus d'excuses technologiques ou techniques pour ne pas mettre en œuvre de manière efficace ce contrôle.
Peur, quand vous dites peur, ça veut dire peur d'avoir mal la première fois?
Pas forcément.
Oh, ouais.
Bah, peur de quoi alors?
Peur de la première fois, tout court.
En fait, peur de tout ce qui est rapport à la sexualité. Quoi. Ouais. T'as peur de rentrer dans ce qui peut se passer. La sexualité.
Pourquoi vous avez mis concession?
Bah, moi j'ai mis concession parce que ça demande de faire des efforts ou des sacrifices. Enfin, je sais pas. Enfin, on fait des trucs qui nous plaisent pas forcément pour l'autre.
Tu veux concessionner quoi? Bah, on voit bien là sur les deux images que les filles elles parlent plus de leur corps à eux. Par exemple, quand on voit point G, on voit clitoris, alors que les garçons ils parlent pas forcément de notre corps, alors que les filles elles sont plus
Vous avez quand même mis taille à un moment.
Je savais.
France Culture, question du soir. Matteo Caranta.
On vient d'entendre un extrait d'un documentaire, un cours pas comme les autres, disponible sur les plateformes de streaming gratuit. Documentaire qui s'est tourné, qui a eu lieu en septembre 2024 dans un lycée de banlieue parisienne où une douzaine d'adolescents de classe de seconde générale ou professionnelle se retrouvent et discutent de sexualité. Par où ça passe l'apprentissage de la sexualité? Est-ce que c'est vrai que c'est en premier lieu la pornographie qui est l'apprentissage de la sexualité aujourd'hui? Est-ce que c'est justement en discutant entre eux, en se demandant qu'est-ce qu'on concessionne? Est-ce que c'est avec les professeurs? Est-ce que c'est avec la famille? Vous riez, Marie-Rose Romain.
Bah, en tout cas, c'est un cours sympa. Mmh. C'est vraiment ça. Parce qu'effectivement, la question de la sexualité, c'est des mots. C'est, on parlait de réel et d'imaginaire, mais c'est d'abord de l'imaginaire. Et d'ailleurs, ils se demandent hein, qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce que c'est la confrontation à ce que tu as dans la tête, en fait? Donc, je trouve que, justement, ça c'est pouvoir en parler. Alors, l'éducation sentimentale, l'éducation sexuelle, ça passe par les canaux habituels de l'éducation, par la famille et par l'école. Et c'est super important parce qu'on était en train de discuter des différences que ça peut faire, mais qui en fonction de l'âge. Mais à 18 ans et un jour, ça fait mal aussi la pornographie. Hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire que c'est pas bien sûr chez les enfants, ils sont en plein développement c'est une question spécifique. C'est la question de la protection et du développement de nos enfants et de nos adolescents. Mais ça va. Pourquoi je dis que ça allait au-delà, parce que vraiment que l'on fabrique ce type de contenu et qu'on expose, y compris les jeunes adultes, c'est problématique, parce que ça transmet des rapports de force et ça véhicule des choses sur sur le consentement et sur les rapports d'altérité avec les autres. Et c'est ça qui est problématique. Donc c'est là-dessus qu'on doit travailler. Et donc ça vraiment, c'est une question qui concerne la société tout entière, quoi.
Yael Anselem-Mingui sur l'apprentissage de la sexualité.
Alors, dans l'enquête Envie, on a interrogé un peu plus de 10 000 jeunes âgés de 18 à 29 ans.
Voilà, il faut dire ce que c'est cette enquête.
L'enquête, elle porte vraiment sur la vie relationnelle, affective et la sexualité des jeunes de 18 à 29 ans. On les a interrogés en 2023 et notamment, on leur a posé la question de quelles sont leurs sources d'informations sur la sexualité. Et on observe que pour 90% des jeunes, que ça soit des filles ou des garçons, c'est d'abord auprès de leurs partenaires qu'ils et elles vont s'informer et vont identifier les partenaires comme étant des sources d'informations sur la sexualité. Viennent ensuite les potes, les amis filles d'abord, les amis garçons ensuite, pour les filles comme pour les garçons, puis les professionnels éducatifs et de santé, puis les réseaux sociaux, puis la télé, puis enfin la pornographie. Et la pornographie, du coup, si on regarde de manière massive, elle est à 36% citée comme étant une des sources d'informations sur la sexualité, avec un gros écart entre les filles et les garçons, puisqu'on a 48% de garçons qui citent la pornographie comme étant une source d'informations sur la sexualité, pas la seule, pas l'unique, mais une des sources, versus 23% des filles. Donc voilà, et ça c'est une enquête qui est représentative de la population française âgée de 18 à 29 ans.
Alors si on vous écoute, on se dit que peut-être ce n'est pas une urgence, pas, en tout cas pas une urgence de santé publique.
En tout cas, c'est pas la fin. La pornographie n'est pas la porte d'entrée dans les sources d'informations sur la sexualité. C'est pas l'unique espace de production, de représentation des corps, de représentation des rapports de genre inégalitaires. On le retrouve dans les films, on le retrouve dans la pub, on le retrouve en fait dans tous les supports culturels. On le retrouve aussi dans la rue et dans toutes les scènes d'observation. Et en fait, on va voir surtout dans toutes les enquêtes que la pornographie, elle va suivre proposer des nouveaux contenus, elle va suivre des contenus qui sont déjà proposés dans d'autres formes de manières de présenter le corps, sur l'épilation du torse des garçons, sur les manières d'épiler les corps féminins et ainsi de suite. Elle va suivre la publicité, elle va suivre d'autres comportements et elle n'est pas à l'initiative finalement de la disparition des poils massivement ou de la pilosité de la barbe dans certaines pratiques. Donc voilà. Et par contre, on voit bien que la famille arrive bien après. Elle arrive bien après pour tous les jeunes. Et donc, c'est aussi là où il y a de la place pour l'éducation à la sexualité. Et elle n'est pas exclusive, à savoir qu'il y a des sources d'informations sur la sexualité. Et qu'en fait, c'est la multiplication des sources qui va faire que les jeunes, derrière, en parlent avec leur partenaire ou pas. Quand on a plus de 4 sources d'informations, quel que soit le milieu social auquel on appartient, quand on a plus de 4 sources d'informations sur la sexualité, on a tendance à parler davantage de contraception, de consentement, de protection au moment des rapports sexuels. Quand on a eu moins de 3 sources et moins d'informations sur la sexualité, quelles que soient finalement ces sources d'informations, on va voir que les jeunes vont être moins à l'aise pour aborder ces questions-là, que ça soit du côté des filles ou des garçons, dans les rapports hétérosexuels ou dans tous les autres types de rapports sexuels. Donc voilà. Et puis enfin, pour terminer, ce qui mérite d'être souligné très rapidement dans cette enquête, c'est que malgré tout, ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui citent moins 3 sources et moins d'informations sont surreprésentés parmi les catégories populaires. Et donc, on a aussi des enjeux d'inégalité sociale, d'inégalité de classe sociale, sur la manière et l'acquisition et la disposition de ressources et de la diversité des ressources d'informations sur la sexualité. Et donc, c'est là où il y a aussi un rôle collectif et une place pour l'éducation à la sexualité.
Samuel Combles, comment est-ce que vous recevez ces résultats de l'enquête en vie que j'imagine que vous aviez vu auparavant ? Est-ce qu'ils vous rassurent ? D'une certaine manière.
Oui et non, il me rassure parce que d'abord, on voit bien que les jeunes se tournent avant tout vers l'humain et non pas vers des images pornographiques pour essayer de se forger une culture et une vision de la sexualité. Donc c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que il y a des choses à faire et il faut faire des choses pour que les jeunes retrouvent la confiance en les êtres adultes pour pouvoir leur apporter cette information. Je suis un peu inquiet de me dire que les adultes arrivent très tardivement quand même dans ce classement et que bien sûr que en parler entre soi, c'est déjà une bonne chose, mais ça ne peut pas tout. C'est vrai qu'on peut s'étonner que même l'école ne me paraît pas être citée.
Voilà. Il y a les professionnels éducatifs et de santé.
Voilà. Donc c'est vrai qu'on a peut-être besoin de reprendre notre place, nous les adultes, les professionnels, pour faire en sorte que ça puisse être aussi des interlocuteurs repérés par les jeunes. Alors c'est vrai que parler de sexualité avec ses parents, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours un sujet facile. Je pense qu'il faut
surtout
aussi...
lorsqu'on pense que ce sont des ringards, parce que
en plus. Je pense pas forcément que la famille soit le meilleur endroit, mais en tout cas, je pense que le rôle de la famille est d'orienter le jeune vers un adulte qui sera capable de pouvoir le faire. Effectivement, il y a des professionnels de santé qui sont tout à fait capables de pouvoir accompagner les jeunes, de pouvoir répondre à leurs questions, les rassurer. Et puis, je pense qu'en tant qu'adulte, il va falloir à un moment vraiment qu'on se mette d'accord sur le fait que c'est pas parce qu'on parle de sexualité à des enfants ou à des adolescents que du coup, ils vont passer à l'acte ou qu'on va leur mettre des idées dans la tête qui vont être inquiétantes. On entend souvent dire de la part des parents, mais je vais pas lui en parler tout de suite parce que vous comprenez, il est trop jeune. Et puis après, on se rend compte que c'est trop tard parce qu'il est passé à l'acte et qu'il s'est bien passé de tous les messages de prévention qu'on aurait dû lui transmettre. Et c'est là le problème. Je pense qu'il faut qu'on commence assez tôt.
Alors, à quel âge, par exemple ?
Moi, je pense qu'il faut parler de sexualité dès 6 ans. Dès que l'enfant commence à potentiellement être exposé à Internet, les enfants commencent à utiliser Internet à partir de 5 ans et 10 mois à peu près en moyenne. Donc, ça veut dire qu'à la sortie de la maternelle, quasiment, ils vont peut-être être confrontés à des images pornographiques parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on peut y être confronté sans forcément le vouloir. Et donc peut-être que de pouvoir faire de la prévention et de dire si tu vois des images pornographiques, enfin si tu vois de la pornographie, si tu vois des choses qui te dérangent sur Internet, viens m'en parler. Ne serait-ce que de dire ça, pas plus, hein, je parle pas de parler de sexualité comme on en parlerait à un adolescent, mais de pouvoir faire de la prévention, c'est déjà permettre à l'enfant de ne pas s'enfermer dans ces images, parce que la première réaction d'un enfant quand il voit des images pornographiques, c'est de ne surtout pas en parler aux parents. Parce que l'inquiétude qu'il va avoir, c'est que les parents vont s'affoler, ils savent très bien, les enfants, que c'est pas adapté pour eux ces images, et le risque, c'est que les parents vont retirer l'écran de la main des enfants et c'est là où ça peut être compliqué pour eux. Donc l'idée, c'est au contraire de dire, si tu en vois, et c'est possible, parce que parfois, même sans le vouloir, on va en voir, viens me chercher et je t'expliquerai ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra peut-être faire un peu de prévention et de pouvoir rassurer l'enfant sur ce qu'il a vu. Et on pourra surtout lui expliquer que si ça se passe, il faut fermer la fenêtre parce que c'est des images qui ne sont pas adaptées pour lui.
Michel Combeau, est-ce que c'est vraiment possible de créer un écosystème numérique safe, un écosystème sécurisé pour les enfants, parce que c'est l'argument des éditeurs de sites pornographiques qui disent mais les gens utilisent des VPN, si c'est pas moi ce sera un autre, moi je contrôle la qualité des contenus, la légalité des contenus que je diffuse, ils iront voir s'ils tombent pas sur moi, ils tomberont sur pire. Est-ce que finalement cette idée de interdire, de contrôler l'âge pour créer une espèce d'écosystème sécurisé pour les enfants n'est pas naïve? naïve d'une certaine manière par rapport à toutes les possibilités que offrent aujourd'hui les appareils, l'accès numérique.
Déjà, on quand même le rappeler, l'interdiction d'accès à ces sites-là est du ressort de la loi. Donc, respecter la loi, c'est mettre ce contrôle d'âge. Bien entendu, l'interdiction n'est pas suffisante. Hein. Le vrai enjeu, ce que nous prenons aussi à la CNIL, c'est aussi l'éducation des parents, l'éducation des jeunes, et aussi leur donner les clés, en fait, de comprendre ce que peut receler Internet. Hein. Ses potentialités pour apprendre, ses dangers aussi, et c'est vraiment replacer l'éducation au centre, en tout cas, je dirais, des échanges entre parents et jeunes, et effectivement, on mesure bien la difficulté de remettre les parents et les adultes au sein de ces, je dirais, de ces débats. On a aussi d'autres outils, hein, comme le contrôle parental, hein, qui ont bien entendu leurs limites, mais qui sont aussi des moyens d'un dialogue entre les parents et les enfants sur ce qu'Internet peut apporter, ce qui peut effectivement gérer les dangers. Donc on a bien effectivement un triptyque entre l'interdiction qui doit être faite en tout cas d'accès par les jeunes, les outils pour aider les jeunes à comprendre ce que Internet peut receler et l'éducation, le dialogue. Effectivement, ce sont des enjeux parfois complexes, mais qui sont nécessaires. Parce que bien entendu, on n'arrivera pas à tout par l'interdiction. Mais il faut quand même rappeler, il y a une loi, quand vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez pas accéder à ces contenus. Et les sites doivent s'y conformer comme ce qu'on, je dirais, un marchand de journaux doit contrôler l'âge des gens qui achètent des revues pour adultes. Hein. C'est exactement la même chose. Alors, et tout le monde doit s'y conformer.
Un autre argument de l'industrie pornographique que vous connaissez bien, j'imagine, c'est celui de dire que ces mesures seraient liberticides, qu'elles mettraient en danger la vie privée des consommateurs.
Alors, là, pour le coup, je vais peut-être répondre en tant que représentant de la CNIL. Non, parce que c'est bien aussi le travail que l'on a fait, parce qu'on aurait pu très bien dire à l'impossible nul n'est tenu. Le possible est existant. Des solutions qui préservent l'anonymat des personnes de vérification d'âge existent. Nous en avons fait la démonstration. Ces solutions sont déjà disponibles. Elles sont sûrement perfectibles, mais vont s'améliorer. Et elles pourront être utilisées d'ailleurs pour d'autres cas d'usage. Hein, notamment si vous voulez acheter en ligne des choses qui sont interdites au moins de 18 ans, demain ce sera effectivement possible. Mais on le voit en tout cas, ces solutions existent, elles sont respectueuses de la vie privée, et ce n'est pas une excuse pour que les sites échappent à leurs obligations.
Rapidement, Samuel Comblat, cet argument vous fait réagir.
Oui, ça me fait réagir, c'est un choix de société. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut protéger les enfants, ou est-ce qu'on veut protéger le risque de fuite de données personnelles ? Et comme on l'a dit, effectivement, il y a des systèmes aujourd'hui qui sont tout à fait fiables. Donc cet argument, il ne vaut plus rien aujourd'hui. Il valait peut-être encore quelques années parce qu'on n'était pas encore prêt technologiquement. Mais là, aujourd'hui, les systèmes ont été éprouvés. On sait que ça fonctionne. Donc de dire que on ne peut pas protéger les enfants parce qu'il y a des risques de fuite de données, pour moi, c'est non recevable. Et il faut qu'on avance parce que c'est une société qui laisse des enfants qui sont face à des contenus qui ne sont encore une fois pas du tout adaptés pour eux.
Marie-Rose Moreau.
Oui, c'est sûr, éducation des enfants et des parents, esprit critique des adolescents, mais ne soyons pas hypocrites, c'est nous qui les fabriquons, ces contenus et cette violence, cette caricature, parce que Yael le disait tout à l'heure, c'est une caricature des préjugés et des choses les plus violentes et les plus discriminatoires de notre société, hein, la pornographie. Il faut aussi que nos représentations et nos actions diminuent l'impact de ces images totalement d'une violence extrême et d'une caricature absolue, quoi. C'est ça, il y a un côté, je trouve, hypocrite dans ces manières de...
On voit seulement... Dans le débat sur la protection des mineurs face à la pornographie.
On voit juste l'effet négatif sur ces mineurs, il est évident, mais on le fabrique, quoi, cet effet. On le fabrique massivement. Et on le fabrique à partir
Vous ne prendriez pas le débat par...
Si, mais je pense qu'il ne faut pas le prendre seulement par le... Parce que sinon, on voit en entonnoir... On voit l'effet final, et c'est évidemment celui-là, il est évident, mais l'entonnoir, il est bien plus large que ça, quoi.
Yael Anselem-Mangui, il y a un nouveau programme qui va avoir lieu, qui va être applicable dès la rentrée 2025, c'est le programme EVARS, comme cela qu'on dit, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire Et est-ce que ça peut entrer en lien avec les questions d'éducation, d'éducation affective notamment, dont on parle depuis tout à l'heure, affective et sentimentale?
Ah bah c'est l'objectif du programme, c'est justement de la maternelle jusqu'à la fin des années lycée, d'avoir un parcours en fonction de l'âge, du niveau et de la maturité des questionnements des élèves. Donc j'ai vraiment dit en fonction de l'âge, du niveau, de la maturité, de la classe dans lesquelles sont inscrits les élèves. Et donc on ne parle pas pareil à des enfants qui ont 13 ans, à des enfants qui en ont 3, d'autres qui en ont 17. Mais vraiment de tenir compte d'un parcours d'élève et donc de passer d'abord par la vie relationnelle. C'est quoi les amis? Comment on sait qu'on est un ami? Comment c'est quoi un copain? Comment on n'est plus copain? C'est quoi les relations affectives? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ses copains qu'on ne fait pas avec ses parents? Pourquoi les parents sont pas des copains? Pourquoi? Voilà. Et qu'est-ce qui fait que quand les parents disent « Alors, t'as un amoureux ou t'as une amoureuse ?» dès le début de la rentrée, on a le droit de dire non, parce que la sexualisation des relations enfantines, elle passe aussi par les questions des parents. Et après, arriver doucement à la question de l'intimité, du corps, du consentement. Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que j'accepte pas? Qu'est-ce que je fais quand il y a quelque chose que j'accepte pas? À qui? C'est qui un adulte de confiance? C'est pas forcément les parents. Oui, c'est les parents, mais ce ne sont pas exclusivement les parents. Dans l'école, il y a d'autres adultes de confiance. Dans l'entourage, il y a éventuellement d'autres adultes de confiance. Et puis, en fait, au fur et à mesure du parcours de l'élève, entre la maternelle et le collège, on va aborder la question du corps, de nommer le corps avec les définitions scientifiques des parties du corps. Parce que quand on veut faire de la prévention, et notamment la prévention des violences, il faut nommer les choses. Et que si les enfants, on les laisse avec des mots qui sont des mots utilisés dans les familles, chaque famille a son mot, on ne peut pas nommer collectivement les choses. Et donc, ça va passer par apprendre un vocabulaire scientifique sur les parties du corps. Un genou, ça n'a jamais posé de problème à quelqu'un d'appeler ça un genou. On va dire que c'est pareil pour une vulve, et ça évitera que les filles disent « j'ai mal au vagin ». Donc voilà. Et donc, progressivement, au collège, on va renforcer cet apprentissage du vocabulaire en lien avec le corps, et puis entrer progressivement dans la sexualité. Le programme est divisé en deux. Une partie pour l'enseignement maternel et primaire sur la vie affective et relationnelle, et la sexualité intervient finalement au collège puis au lycée.
Il est bien reçu ce programme ?
Alors, il est relativement bien reçu par les équipes qui se posent forcément la question des moyens, à juste titre. Mais il a été voté par l'ensemble du Conseil supérieur des programmes, il a été discuté et débattu sans aucune difficulté avec les syndicats d'enseignantes et d'enseignants. Voilà, et tout le monde était en attente d'un programme après qu'il y ait eu depuis 2001 une loi qui impose 3 séances d'éducation à la sexualité, mais qui n'est pas de moyens et pas d'objectifs et de cadres pour donner voilà une ligne de conduite collective qui protège à la fois les enseignantes et les enseignants, qui protège les enfants aussi, qui protège les associations qui interviennent en milieu scolaire sur qu'est-ce qu'on fait, à quel âge, dans quel cadre, à quel moment.
Samuel Comblet, c'est un vieux serpent de mer de la politique, ça, les cours d'éducation sexuelle qui ont toujours énormément fait débat. Est-ce que là, on est à un moment où on est en train de dépasser ces clivages moraux, parfois, autour de l'éducation sexuelle pour prendre à bras-le-corps? Vous sentez qu'il y a un changement, disons, de paradigme, un changement d'approche?
Oui, je pense qu'il y a une bascule qui est en train de s'opérer aujourd'hui. Je pense qu'on est globalement tous d'accord pour se dire qu'on ne peut pas laisser les choses telles quelles et qu'on doit accompagner ces jeunes, qu'on ne peut pas les laisser entre eux décider ce qu'est la sexualité et comment ils vont pouvoir la vivre. Il faut pouvoir les guider pour après leur permettre de faire leurs propres choix et les faire en conscience. C'est vrai que ce programme EVARS, je le connais bien parce que je participe à l'évaluation des ressources qui vont être diffusées à partir de l'année prochaine pour pouvoir justement permettre aux équipes de se saisir de ce programme et d'avoir je dirais les contenus pour pouvoir transmettre ça aux jeunes. Moi je trouve que c'est un programme qui vise la modernité et je pense qu'on a besoin de ça. Aujourd'hui on a parlé beaucoup dans l'émission d'Internet et je pense qu'il faut introduire cette question de l'Internet et des réseaux sociaux aussi, parce que la pornographie, elle passe aussi par les réseaux sociaux. Et donc, je pense qu'il faut aujourd'hui accompagner les jeunes pour pouvoir leur permettre d'avoir des usages numériques qui soient là aussi faits en conscience pour se protéger eux-mêmes et protéger les autres. Donc, le mouvement de bascule, il est nécessaire. On a une obligation et je pense que c'est à nous, les adultes, de pouvoir prendre nos responsabilités pour faire en sorte que les générations à venir puissent vivre l'entrée dans leur sexualité de la manière la plus apaisée possible.
Un dernier mot, Michel Combeau. L'État français a la possibilité d'aller de l'avant face aux géants du porno tout seul en Europe?
Oui, on l'a vu d'ailleurs, parce qu'un acteur majeur des contenus pornographiques a décidé d'arrêter en fait la diffusion de ces contenus en France, preuve que l'action de l'État et l'action de l'ensemble des acteurs marche et a un impact.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous quatre. Marie-Rose Moreau, je ne peux pas vous donner une dernière fois la parole. Il est déjà trop tard dans cette émission. Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Cité, chef de service de la maison de Solène, qui recueille et qui des voix et des adolescents. Samuel Comblaise, à vos côtés, psychologue de l'enfance et de l'adolescence, directeur des opérations de l'association e-enfance du 30-18. Yael Amselmingui, sociologue, chargé d'études à l'INJEP et membre du Centre d'études et de recherche sur les liens sociaux, à lire cette enquête publiée à la découverte, La sexualité qui vient, jeunesse et relations intimes après MeToo. Et enfin, Michel Combeau, directeur des technologies, de l'innovation et de l'intelligence artificielle à la CNIL. Merci beaucoup à vos quatre d'être venus dans le studio 341 de la Maison de la Radio. Cette émission a été préparée par Théa Corlaire, Aloïse Guérin à la programmation. Merci à toute l'équipe Vivant le Cuivre à la réalisation, à la technique ce soir, Alexandre Dan. Quant à nous, rendez-vous demain, même heure, même studio, pour une autre émission qui sera consacrée au risque de famine de masse à Gaza. En attendant, très bonne soirée sur France Culture.